c'est une révolution.
Je vous ai compris.
I have a dream.
Vive la nation !
Vive la nation !
Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
That's one small step for man.
Ich bin ein Berliner.
Groupir ! Il faut reste groupir ! Qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit groupir.
Tout à l'heure, you are French.
Et toc, remonte ton slibard, Lothar.
Monsieur ! Un sarrasin !
Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. Bonne nuit. Dormez bien. Rassemblez vos forces pour l'aube, car l'aube viendra.
La percée de l'histoire.
La percée de l'histoire.
Ça commence maintenant.
Maintenant.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est Simon, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com et vous écoutez La Percée de l'Histoire en direct du studio pour la troisième émission spéciale Portrait d'Histoire en compagnie de Benoît Musset. Bonjour Benoît Musset.
Bonjour.
Attendez, oui, j'ai pas activé vos micros, ça commence bien.
Bonjour.
Vous allez bien?
Ça va et vous?
Très très bien. Et également, d'abord je vous présente, vous êtes enseignant-chercheur et maître de conférence en histoire moderne à l'Université du Mans. Et également membre du laboratoire Temos, donc Temps, Monde, Société du CNRS. Et donc, merci d'être avec nous. Et également l'équipe composée ce soir d'abord de Salouane. Salut Salouane.
Bonsoir.
Comment tu vas?
Comment tu vas toi?
Ça va très très bien. Et puis Thomas, évidemment, toujours. Comment tu vas Thomas?
Super bien, génial. La forme.
C'est bien, c'est la pêche ce soir.
Ça change, ouais.
Ah bon?
Je sais pas, à chaque fois il est un peu blasé. À chaque fois tu lui demandes si ça va.
Ça y est, on règle les conflits, ça commence bien.
Allez, d'accord.
Est-ce que vous avez passé tout le monde un bon week-end?
Ouais, super. Ouais.
C'est vrai.
Oui, il faisait très beau.
C'est vrai, ouais.
C'est vrai que. Et bon, alors des fois c'était un peu. Enfin, ça soufflait.
Je disais ça exprès. Hein,
ah oui.
Dimanche, c'était pas terrible.
Bah oui.
Qu'est-ce que je me souviens même plus de la météo dimanche.
Non, la tempête. C'était la tempête.
Ah oui, c'était la tempête, c'est vrai. Donc il a fait que c'est. Oui, il a fait très très beau. Au programme de l'émission, on commencera par revenir rapidement sur votre parcours, Benoît Musset. Et on abordera ensuite le contenu de vos recherches, puisque vous avez longtemps travaillé sur les vignobles. Mais plus récemment, vous vous êtes intéressé au commerce dans les campagnes du Maine au XVIIIe siècle. On reviendra sur les origines de vos recherches et sur ce que vous avez découvert. Et puis on terminera avec votre portrait d'histoire. Bref, un sacré programme qui promet d'être passionnant, donc restez bien avec nous, puisqu'on démarre tout de suite avec votre parcours, Benoît Musset.
Qui c'est qui est là?
La percée de l'histoire.
Tiens!
Mais c'est pas vrai!
Ah, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi?
Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
Ah ouais?
Ouais.
En direct du studio pour une émission spéciale Portrait d'Histoire, avec l'historien Benoît Musset.
Eh ben mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende.
Et on le disait, Benoît Musset, vous êtes donc enseignant-chercheur à l'Université du Mans. D'abord, peut-être une question toute simple, mais pourquoi, enfin, d'où vous est venue cette passion pour l'histoire? Pourquoi ce métier aussi? Puisque c'est vrai que c'est un métier, comme on le disait avec Arthur Langer, qui n'est pas forcément facile et qui est une vraie décision, en tout cas un choix de carrière qui n'est pas évident. Pourquoi d'abord cette passion pour l'histoire?
La passion pour l'histoire, je pense que je l'ai eue assez jeune. Alors c'est un petit peu rigolo parce que quand j'étais très jeune, j'avais une passion pour la géographie et les cartes. Et un jour, mon père m'a dit « Mais les géographes, c'est pas un métier. Il faut faire de l'histoire en France, on fait les deux. » Alors je me suis dit « Mince, il faut que je fasse de l'histoire. » Et donc je me suis intéressé à l'histoire.
Ah, donc au début, c'était
mais
pas par choix.
Je garde un intérêt majeur pour la géographie.
Ah. Donc ça c'est marrant parce qu'il y a aussi le cas des fois inverse de géographes, je sais, d'historiens qui ont basculé vers la géographie. Donc c'est assez intéressant. Et donc enseignant chercheur, alors comment ça s'est passé? Comment, quel cheminement?
Alors l'idée est venue progressivement. J'ai fait mes études à Reims dans une fac de province dans l'idée de faire professeur d'histoire géographie. Ce que j'ai fait, donc j'ai passé d'abord le CAPES, et déjà dans les années, je me rappelle même plus, en 96, je crois. Et puis, donc voilà, après je suis parti en stage. Après, j'ai passé l'agrégation en même temps, donc que j'avais pas eu la première fois. Et après, je suis parti à l'armée, puisque ça existe encore. Et puis après, j'ai repassé l'agrégation que j'ai eue. Et là, après, je suis parti en lycée et j'ai enseigné pendant quasiment 10 ans en lycée. Et parallèlement, j'ai commencé à faire une thèse dès la deuxième année, je pense, où j'étais au lycée. Et donc, j'ai fait une thèse d'histoire parallèlement au métier d'enseignant dans le secondaire. Voilà.
D'accord. Et alors, l'Université du Mans, après, comment ça s'est passé pour... Parce que c'est pareil, il y a des sélections, on le sait, c'est pas si évident.
Ouais, alors j'ai été recruté à l'Université du Mans en 2009. D'accord. Ouais, voilà. Donc j'ai soutenu ma thèse en 2006 et donc j'ai fait, c'était ma troisième campagne. Donc en fait, chaque année, c'est encore le cas aujourd'hui, il y a des postes qui sont publiés à l'échelle de toute la France.
Ouais.
Avec des candidats qui sont qualifiés, comme on dit, c'est-à-dire que vous soutenez une thèse qui ensuite doit être qualifiée par le Conseil national des universités. Donc toutes les thèses sont pas qualifiées, c'est à peu près la moitié, 55%, voire 60%, enfin ça dépend, c'est un peu dans ces eaux-là. Des thèses qui sont qualifiées, et donc une fois que votre thèse est qualifiée, vous pouvez candidater aux différents postes qui sont publiés. Et après, bah, c'est un entretien d'embauche, hein. Il y a plusieurs étapes. Vous êtes, si ça se passe bien, convoqué à un entretien.
Oui.
Il y a entre 8 et 10 personnes en général. Huit à dix autres candidats devant un jury qui, parce que c'est un jury, hein, plus qu'un jury de recrutement. Enfin, c'est assez bizarre, hein, parce que depuis j'en ai fait. Et donc là, ouais, c'est une dizaine de personnes.
Et donc c'est un peu impressionnant,
c'est,
j'imagine.
Ouais, c'est ça, c'est plutôt un grand oral, ouais. Plus que ce que font les élèves au lycée.
Oui, le fameux grand oral du lycée, bien sûr. Et donc vous êtes spécialisé, alors parce que vous avez donc fait des recherches, et particulièrement en histoire moderne. Alors pareil, pourquoi cette spécialisation
Alors là encore, c'est un peu par défaut, puisque au départ, j'avais une passion pour l'histoire médiévale, et comme j'ai pas fait de latin, enfin j'en avais fait au collège, ouais. mais c'était trop difficile et. J'ai compris, enfin, les profs disaient, ils avaient raison qu'on ne peut pas faire d'histoire médiévale sans latin. Enfin, c'est comme faire du nudisme, mais rester habillé, quoi. Donc, donc voilà, j'ai décidé de faire de l'histoire moderne. Alors, c'était plutôt un compromis parce que je trouvais à la fin de mes études, hein, quand on croit tout savoir, aujourd'hui je dirais pas la même chose, mais je trouvais que en histoire contemporaine on pouvait tout savoir parce qu'il y avait des sources sur tout.
Ouais.
La médiévale, c'était un petit peu mystérieux parce que il y avait pas toujours beaucoup de sources, donc il fallait interpréter. La moderne un peu entre les deux, c'est-à-dire que on pouvait trouver beaucoup de choses, mais il y avait encore un peu le côté médiéval du mystère et des stratégies de contournement. Alors depuis, j'ai découvert qu'en histoire contemporaine, il y avait aussi les mêmes stratégies de contournement, souvent parce que les archives sont fermées, pas qu'elles n'existent pas, mais ça revient à peu près au même. Parfois, elles n'existent pas non plus, hein, de toute façon. Voilà.
Et sur les sources en histoire moderne, je pense du coup, parce que vous faites aussi, à l'université, vous faites aussi de la paléographie. Mm-hmm. On a bénéficié de ces cours super vrai. Intéressants. Et ça, c'est pareil. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez développé un peu par hasard aussi, ou est-ce que c'est...
Bah, oui, j'ai appris sur le tas parce que j'avais fait un peu de paléographie médiévale. Donc 12e, 13e jusqu'au 15e, quoi. Et après, c'est beaucoup de pratique hein, dans tous les cas, donc ça donne quelques bases, mais après, il faut lire, hein, y a que ça pour y arriver.
Et la paléographie, pour ceux qui ne sauraient pas comment le définir, c'est
l'étude des vieux textes.
Oui, c'est
voilà,
ça.
Des écritures.
Ouais. Voilà. Ouais. Et qui d'ailleurs, il y a des sacrés textes.
Ah ça.
Moi, je me souviendrai toujours de ce texte avec. C'était quoi l'histoire
d'une voisine qui avait jette du caca sur l'enfant. De...
ah oui, c'est vrai.
C'est ce qu'on a retenu.
En semestre de paléo.
C'est ça. Une dame qui jette du caca sur un gosse. Ouais. Non, c'était intéressant. Mais ça, c'est pareil. C'est des approches super intéressantes. Je vois que le temps passe déjà assez vite. On va s'écouter. Bah alors, on va tout de suite passer peut-être à vos recherches. On va s'écouter une musique juste avant. On l'a dit, vos recherches donc portent sur les campagnes, le commerce dans les campagnes. Alors j'ai voulu faire un petit peu. Je l'ai pas la musique. Si je l'ai la musique, et j'ai voulu faire des musiques à thème. Donc j'ai mis l'hymne de nos campagnes évidemment pour l'instant de trio. Voilà. Donc on se retrouve juste après pour parler donc des recherches de Benoît Musset.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mâles vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones,
pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
ici, tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout,
et
il y a la mer,
et que ça, ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien, comme celui avant toi, comme celui qui vient. Que le liquide qui coule dans tes mains te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil.
Sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tout les animaux que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau
servira la croissance de tes marmots. Servira la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
C'est une révolte.
Non, c'est rien.
C'est une révolte.
Qui c'est qui est là?
La percée de l'histoire.
Tiens!
Mais c'est pas vrai!
Ah, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi?
Tous les mardis, 20h-21h sur Radio Alpa.
Ah ouais?
Ouais.
En direct du studio pour une émission spéciale Portrait d'Histoire avec l'historien Benoît Musset.
Eh ben mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende.
Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com et vous écoutez toujours La Percée de l'Histoire. Et vous l'avez compris, on est donc avec l'historien Benoît Musset qui a fait donc des recherches sur le commerce dans les campagnes du Maine au XVIIIe siècle. Et c'est ce que nous allons aborder maintenant tout de suite, n'est-ce pas Salouane?
Exactement, bah avec une question un peu, première question un peu bateau, mais pourquoi ce sujet?
Oui, alors, j'ai pas rappelé tout à l'heure que j'avais fait une thèse sur le vignoble de Champagne, oui. Au départ, 17e siècle jusqu'aux années 1830, sur la naissance du vin mousseux. Et donc, quand je suis arrivé dans la région, j'ai continué à travailler sur les vignobles parce que j'avais des choses en cours sur une histoire un peu comparée et connectée des vignobles, parce que c'est un domaine de recherche dans lequel il y a des espèces de cloisonnements régionaux qui continuent d'exister. Il y a des historiens à Bordeaux qui étudient le vignoble bordelais, d'autres en Bourgogne qui étudient le vignoble de Bourgogne.
Il y a des groupes comme ça, des clans.
C'est vrai. Donc il y a des colloques où les gens se confrontent leurs travaux, mais c'est pas super bien vu d'aller étudier le vignoble des autres. Ça, c'est ce que j'ai découvert.
Chasse gardée.
Vous êtes qui, vous?
Mais j'y reviendrai ça plus tard. Mais voilà. Donc là, j'ai un petit peu laissé de côté pour des raisons de commodité, parce que les archives sont pas sur place. Et j'ai commencé à étudier les campagnes du Maine. Alors c'est un sujet assez compliqué parce que Alors, il y a des travaux déjà hein, qui ont été faits sur le sujet. Il y a une géographe qui s'appelait Jeanne Dufour qui avait fait une thèse à la fin des années 70 sur les campagnes de la Sarthe. Elle remontait jusqu'au 18e siècle. Hein. C'est vraiment un grand travail. Et mais les archives sont très éparpillées. Et ça, c'est quelque chose de très différent de la Champagne où les archives étaient plus concentrées. Il y avait des archives de commerce, de maisons de champagne, des rapports administratifs assez pointus sur ce qui se passait dans la Sarthe ou le Haut-Maine comme on l'appelle avant la Révolution, pas grand chose. Et en fait, en 2013-2014, j'ai commencé à aller voir dans les archives consulaires, donc c'est des archives de tribunal de commerce en fait, hein, l'ancien nom du tribunal de commerce qui est devenu tribunal de commerce dans les années 1790. Et là, j'ai commencé à un peu par hasard, hein, aller voir ce qu'il y avait dedans et tomber sur des enquêtes du tribunal auprès de des auditions de témoins dans des affaires de bestiaux, des affaires donc des vaches, des porcs, des tas de blé, des produits de la campagne. Et donc au début c'est assez rigolo parce que c'est hyper anecdotique, donc on se dit ah, c'est marrant, puis qu'est-ce que je vais en faire. Et puis en lisant petit à petit, en fait, bah, on découvre tout un monde qui se structure à travers les yeux des gens qui, plutôt la plume, des gens qui écrivent, des témoins. Alors il y a des témoins qui témoignent oralement et des gens qui ne mettent par écrit, souvent un curé ou alors un négociant qui est mandaté par un tribunal de commerce. Donc il y a toujours un filtre, mais on arrive à accéder à une parole. De paysans, de marchands, c'est des paysans marchands, et en fait, il n'y a pas de travaux sur ces gens-là. On a étudié les laboureurs, on a étudié la répartition des terres, on a étudié la propriété foncière, on a étudié puis le commerce, comme j'avais fait, en fait, le commerce des vins, ça c'est un truc bien visible, bien clinquant, donc ça on l'a étudié. Et puis le commerce ordinaire, ou qui semble ordinaire, des bovins, des porcs, des moutons. Et puis tout le reste, le chanvre, le fil, c'est des centaines et des centaines de personnes qui vivent de ça. Et ben, il n'y a pas énormément de travaux là-dessus. Et donc il y a un aspect un peu émotionnel, c'est-à-dire de retrouver la parole des gens malgré les filtres. Ces gens qui sont hyper impliqués dans une affaire, qui vont se disputer, les gens qui vont alors ils s'insultent jamais, hein, ils s'insultent jamais, mais par contre on voit toutes leurs manœuvres, toute la mise en scène des affaires, et c'est des gens qui, bah, petit à petit, hein, après le premier approche un peu anecdotique, bah, on finit par les prendre au sérieux et puis faire partie du public. Et en fait, au bout d'un moment, on sait à peu près ce qui va se passer parce que le scénario est un peu toujours le même dans les affaires quand les gens sont en dispute, quand ils sont en désaccord sur une vente de vaches, on sait qu'il y en a un qui va proposer un prix irréaliste pour casser le truc, ou l'autre va dire que c'est trop cher, et puis il fait semblant de partir, l'autre essaie de le faire revenir, il y a des gens qui viennent s'entremettre, et donc à chaque fois, c'est des affaires comme ça, et derrière ce côté un peu anecdotique, il y a des choses très sérieuses, c'est-à-dire la notion d'entreprise marchande, la notion de profit, la notion de rapports sociaux, tout ça c'est lié. Voilà, donc il faut passer le premier stade, il faut comprendre les logiques de ces gens-là, qui nous ressemblent dans un certain sens, mais qui ont des comportements parfois différents, mais qui ont un raisonnement économique et extrêmement élaboré en fait.
Ouais, non. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà. En fait.
Bah d'ailleurs, c'est ce que vous nous avez envoyé par mail. Vous nous avez envoyé la citation « Je ne fais point de marché d'enfants ».
Ouais.
Et ça prouve justement que c'est un commerce vraiment structuré, avec des logiques économiques très très poussées, et pas simplement juste les paysans qui troquent, je sais pas moi, un panier de carottes contre une poule, ou ce genre d'idées un peu bêtes qu'on a sur le monde paysan.
C'est pas si bête que ça, parce que... c'est une représentation en fait qu'on a de l'ancienne économie et qui est parfois reproduite dans des livres d'historiens. J'ai lu récemment un livre sur les campagnes du 19e siècle, qui très bon livre, hein, mais qui reprenait un peu cette idée que, en gros, avant le 19e siècle, les campagnes étaient faiblement monétarisées. C'est un truc que je ne vois absolument pas dans les sources. et que dominé par le troc ou les échanges de proximité. En fait, on ne voit pas du tout ça quand on prend la peine d'aller voir dans les archives. On voit des gens qui font des affaires à l'échelle de toute la région, des gens qui fréquentent les marchés, les foires, mais plusieurs fois par mois, qui se donnent rendez-vous, c'est leur téléphone portable, hein, ils se donnent rendez-vous d'une foire sur l'autre, ils savent très bien qu'un tel et un tel y sera. Donc pour se faire payer, c'est important. Donc ils ont des stratégies, on va dire territoriales, pour être présents dans tel ou tel endroit. Il y en a qui sont très audacieux, qui font du commerce directement à Paris. Donc là aussi, au début, moi, c'est quelque chose que je connaissais pas. Alors on connaît pour le Limousin, il y a des Normands qui font des marchands à Paris, du commerce à Paris, mais les gens du Maine, bah, on les voyait pas trop dans les archives. En fait, il y en a qui vont, donc ils font la route 5-6 jours avec une trentaine de cochons pendant 5-6 jours. Ils s'arrêtent dans les auberges. Chose, ça, ouais. Donc c'est ou des bovins, hein, une quinzaine de bovins.
Comment on les transportait d'ailleurs?
Oui, j'allais poser la question. Ouais.
Bah, ils ont des pattes, donc ça c'est.
Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est à la file indienne.
Voilà, exactement. Ouais. Exactement, et les cochons accrochés chacun à une corde à la jambe du cochon de devant. Ah, pas qu'il s'échappe. Hein. Ouais, alors des fois, de temps en temps, il y en a un qui s'échappe, hein, mais
ça devait être marrant sur la route.
Bah, ça devait faire des sacrés cortèges
Ouais. J'en ai trouvé un qui, enfin, c'est un bovin, un bœuf qui s'était noyé à Ivry-l'Évêque, ouais, en 1790. Ah. Voilà, sur la route d'Ivry, venait de partir, et puis je sais pas ce qu'il a vu dans l'huile. Il est allé dans l'eau, et puis il a commencé à avancer. Les autres l'ont suivi. Ils ont réussi à empêcher les deux autres qui étaient avec d'y aller, mais le troisième, ou plutôt le premier, il s'est noyé, quoi.
Coup, ouais, là, ça représente une perte d'argent.
Bah ouais, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. C'est quasiment le prix d'une maison. Enfin,
Oui, c'est ce que j'allais dire par le rapport.
Ah ouais, c'est énorme.
Ça représentait le prix d'une maison. Ouais, donc c'est
peut-être pas une maison, mais en tout cas, c'était maison. Hein, mais en tout cas, un paysan qui décède dans les années 1780, un gros paysan, il va avoir, je sais pas, 1000 livres ou quelque chose comme ça de bien. Si on compte le lit, les habits, les meubles, on va arriver à 1000 livres. Un bœuf, c'est 200-250 livres.
Oui, non, déjà, c'est un quart quasiment.
Énorme. Voilà, c'est ça. Et puis des petites maisons, on en trouve à 500 livres. Avec deux bœufs, vous achetez une maison quasiment. Une petite maison, hein, toute petite.
Mais déjà, une maison.
Il y a des gens qui n'ont pas ça, quoi.
Ben, oui. Et quels sont les grands rendez-vous, les grandes foires en fait de la région à cette époque-là?
Bah, c'est assez peu hiérarchisé parce qu'en fait il y en a partout. Mais parfois on est surpris dans des petites villes, enfin, je sais pas, Écomois, il y a des foires à Écomois, il y a des foires à Fresnay-sur-Sarthe, il y a des foires au Lude. Alors la foire du Lude est hyper importante en fait. Hein. Mmh. En fait, il y a une espèce d'arc, et c'est assez logique, de foire sur les bords du Haut-Maine en fait, entre le Haut-Maine et le Bas-Maine, donc s'il y a le Guillaume en gros. Hein. La Chartre, Château du Loir, le Lude, la Flèche, là c'est tous les marchands qui viennent du Sud. Ils viennent de Touraine, ils viennent d'Anjou, et puis il y a les Vendéens, enfin la Vendée n'existe pas, mais on appelle ça le Haut-Poitou, donc ils viennent ici, puis il y a même des Limousins qui viennent, viennent jusque-là.
Et ça rassemblait à peu près combien de personnes?
Bah, on ne sait pas, mais c'est des centaines de personnes à chaque fois. Et la seule foire pour laquelle on a des chiffres, c'est la foire du Mans. Alors donc, l'arc continue vers le nord. Mamers, par exemple, c'est au contact de la Normandie. Et la plupart des bestiaux finissent en Normandie, en fait. Enfin, passent en Normandie, où ils continuent de travailler, les bœufs. Hein, et puis après, ils sont vendus à... Ils sont engraissés en fin de vie et vendus à Paris. D'accord. Donc, ils font tout un circuit. Hein. Il y en a beaucoup qui naissent dans le Poitou ou au nord du Massif central et qui... Donc, ils font des centaines de kilomètres au cours de leur vie, mais ils sont revendus 6 fois, 8 fois, 10 fois, voire plus au cours de leur existence. Ils vont travailler sur 3, 4, 5 exploitations différentes avant d'être vendus et terminés, on va dire, sur les tables parisiennes.
Et pendant les transports, donc après, vous parliez d'auberges. Est-ce qu'il y avait des auberges spécialisées pour accueillir justement les bovins ou...
Alors les auberges, justement, j'ai écrit un petit article l'année dernière, il y a 2 ans.
Oui, j'ai cru voir ça sur les tavernes, auberges.
Ouais, c'est ça. Et c'est le lieu stratégique, en effet, parce que les gens se rencontrent, parce qu'ils font leurs affaires au marché, ils examinent les animaux au marché, après ils continuent les affaires au cabaret ou à l'auberge. Il y a tous les marchands qui viennent de l'extérieur, qui louent une chambre à l'auberge ou qui restent plusieurs jours. Donc, le temps de régler toutes leurs affaires. Les gens de passage viennent voir à l'auberge. Quand des gens ont un animal à vendre, ils vont direct à l'auberge. Ils n'attendent même pas sur la place. Ils vont directement à l'auberge. Ils savent que tel marchand venu de Normandie, il achète tout le temps tout ce qu'il trouve.
Ah oui, d'accord.
Et ils vont le voir directement. Donc,
ça vous intéresserait pas
C'est comme ça que ça marche.
Ouais.
Alors, on rentre pas dedans, hein, parce que il y a tout un système de séduction dans le commerce.
Ouais, bien sûr.
Donc,
attirer le client.
Ouais, c'est ça. Alors, c'est rigolo parce que il y a toute une stratégie, et puis des entremetteurs, en fait, qui font savoir que un tel a une vache à vendre, et donc le marchand est intéressé. Alors, soit il envoie quelqu'un à lui, soit il va directement. Donc, il y a plein de petites alliances, des marchands qui s'associent le temps d'un marché. Pour acheter le plus de vaches ou de porcs possible ou de moutons ou, voilà, puis l'association elle va fonctionner le temps du marché, après chacun rentre chez lui quoi. Donc ils essaient de quadriller comme ça le marché et rabattre le plus d'animaux possible. Et donc là encore c'est des stratégies très très élaborées en fait, avec des micro-entreprises on pourrait dire, mais des stratégies d'association, d'alliance qui sont extrêmement rationnel quand on les analyse, c'est totalement adapté aux structures.
Et est-ce qu'il y en avait qui étaient plus, par exemple, est-ce qu'il y avait des entreprises, enfin entre guillemets du coup, mais qui étaient plus grosses que d'autres? Est-ce qu'il y avait des influences plus fortes, par exemple, sur des associations de marchands?
En fait, il y a deux types de marchands. Il y a les marchands laboureurs ou des bordagers, comme on dit, hein, c'est des exploitants 10-15 hectares. Les laboureurs sont 20-25 hectares. Et en fait, ces gens-là, ils ont besoin de bovins. Donc, ils vont en acheter tous les ans des jeunes et ils en revendent des plus âgés. Donc, eux, ils les remplacent. Donc, ils sont obligés d'en vendre 6, 7, 8, 10 par an. Hein. Ils sont bons. Donc, eux, c'est l'essentiel des gens qui viennent sur les marchés. Et puis, après, il y a des marchands spécialisés, des gens qui achètent des grandes quantités de bovins pour soit aller les revendre en Normandie, mais en général, c'est pour aller les vendre directement à Paris. Donc là, c'est les plus aventureux en fait, parce que c'est hyper compliqué, parce que il faut qu'ils calculent le nombre d'animaux qu'ils vont acheter, qu'ils en aient pas trop à nourrir, parce qu'ils ont une exploitation comme les autres en fait. Hein, ouais. Ils ont 20-25 hectares, donc s'ils ont trop de bovins et qu'ils n'arrivent pas à les vendre, donc en fait, ces gens-là ont des réseaux à Paris. En général, ils ont un associé ou des connaissances qui leur achètent systématiquement les animaux qu'ils leur envoient. Donc là encore, en fait, les petits Sartois, il y en a certains qui sont des vrais entrepreneurs, ouais, qui font le voyage de Paris plusieurs fois quand ils sont jeunes. En fait, les laboureurs, souvent, ils sont conducteurs de bestiaux quand ils ont 20 ans. Pour les former, on les fait conduire les bestiaux. Donc, ils les soignent sur la route, ils prennent leurs habitudes avec les aubergistes sur la route. S'ils ont des occasions de les vendre, bah, ils vendent les bestiaux sur la route. Donc, ça leur apprend le métier. Et puis, une fois qu'ils sont à la tête de leur exploitation, ils deviennent des marchands. Donc, ceux-là, c'est les plus importants. Il y en a qui, alors ceux-là, ils peuvent acheter des dizaines et des dizaines d'animaux, enfin, des bovins et des porcs, c'est encore plus, hein, ou des moutons. C'est les moutons, ça se compte par centaines, hein.
C'est des sacrés moyens financiers, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est des gens très entreprenants. Donc, ils ont, ils vont à Paris plusieurs fois par an. Donc, ça contraste avec l'idée du paysan replié sur lui-même. Ouais, c'est pas du tout ce que je vois dans les archives, hein. Et on le voit au niveau des stratégies matrimoniales, c'est des gens qui sont pas enracinés dans leur village. Les laboureurs vont se marier avec des filles de laboureurs de 10, 15, 20 kilomètres, parce que sûrement leurs parents ont déjà fait des affaires ensemble. Et,
stratégiquement.
Donc c'est pas des gens qui sont refermés du tout sur leur petit terroir. Hein. Ça aussi, ça contraste avec ce qu'on dit souvent sur les campagnes.
Donc ça casse bien les représentations. Ouais. Rien à voir, parce que je vois que encore une fois le temps passe. Donc là on va passer à la musique de l'invité. Donc vous avez choisi, on vous a demandé de choisir un titre, une musique. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner ce titre? Je vais le donner. C'était L'Hélicon de Bobby Lapointe, mais plutôt pourquoi avoir choisi ce titre?
Parce que c'est drôle.
Eh ben tout à fait. Allez, c'est C'est parti. Non, c'est une musique que vous écoutez. Vous avez...
Bah, je l'ai couvert tard, en fait, Bobby Lapointe.
Ouais. Moi, je ne connaissais pas, hein, personnellement.
C'est ouais, pas non, le truc à écouter avant de se coucher, parce que vous allez y penser toute la soirée. La musique, toutes les mélodies rentrent en tête, ouais, en tête, c'est... vous allez voir. Voilà.
Et bah, on s'écoute donc Bobby Lapointe, Les Licons.
Mon fils, tu as déjà 60 ans. Ta vieille maman sucre les fraises. On ne veut plus d'elle au trapèze. À toi de travailler, il serait temps. Moi, je veux jouer de l'hélicon. Pou, 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 pou. Dans notre petit cirque ambulant, il y a déjà un hélicon. Choisis donc plutôt d'être clown ou acrobate comme ta maman. Non, je veux jouer de l'hélicon. Pou, 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 pou. N'en parlons plus, mauvaise tête. Viens, va donc voir la femme trompant. Lui, c'est haricot de mouton. Et maman, je ne veux pas que la trompette. Je veux jouer de l'hélicon. Pou, 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 pou. Mon fils, tu es bien polisson. De te moquer de la femme trompe. La femme trompe qui est si bonne. Et maman, que m'importe les trombones. Je veux jouer de l'hélicon. Pou, 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 pou. Laissons donc ces deux femmes trompes, qui a pourtant un beau tuba, et va trouver l'homme serpent. Tu pourras jouer avec au bois, pas du hautbois, de l'hélicon, pou 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 pou. Eh bien, y a ton ami Ellie, qui n'est pas très intelligent. Si tu veux, va jouer avec lui. Et maman, c'est pas ça le vrai instrument. Moi, je veux jouer de l'hélicon, pou 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 pou. Ah, tu m'énerves, ah, ça n'est trop. Tiens, pam, 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 boum, toc, il tombe. Elle l'a tué à coup de marteau. Et l'on a fait graver dessus sa tombe. Il voulait jouer de l'hélicon. Pom, 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 pom. Con.
Qui c'est qui est là?
La percée de l'histoire.
Tiens! Mais c'est pas vrai!
Ah, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi?
Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
Ah ouais?
Ouais.
En direct du studio pour une émission spéciale Portrait d'Histoire avec l'historien Benoît Musset.
Eh ben mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende.
Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et vous écoutez toujours La Percée de l'Histoire pour l'émission spéciale Portrait d'Histoire en compagnie de Benoît Musset qui nous parlait donc du commerce dans les campagnes du Maine, du Haut-Maine, au XVIIIe siècle. Et on va poursuivre cette discussion qui était, ma foi, très intéressante. Mais j'ai dit ma foi, ça c'est...
Ma foi, ma foi, ouais. Je... expression utilisée je la dernière fois.
Ouais, je ne sais pas depuis quand ça existe,
je
à mon
pas,
avis.
Il faudrait chercher.
Ouais. Tout à fait. Et Thomas, peut-être, tu avais une question
Concernant, oui, bien sûr, sur Facebook, vous nous avez communiqué le tableau, alors je n'ai plus...
Yann, attends, Yann Joseph Ormans l'Ancien, si je ne dis pas de bêtises.
Voilà, et je voulais savoir pourquoi vous nous avez donné cette image.
Parce que sur l'image, donc, on voit une scène qui n'est jamais représentée, parce que c'est d'une banalité déconcertante. C'est... deux paysans, en fait, il y a plusieurs sous-ensembles. C'est un peu comme un peu dans la tradition médiévale où on représente plusieurs scènes sur la même scène, en fait. Hein. Donc il y a plusieurs étapes, mais on voit une vache avec deux types derrière en train de tenir un verre, en train de boire un coup.
Alors oui, en effet, Thomas, tu l'as dit. Voilà. Hein, cette image, elle est visible sur le. Vous pouvez le voir sur Facebook.
Sur le post, voilà, qu'on a fait. Donc ça, c'est des deux marchands qui sont en train de boire ce qu'on appelle le vin de marché. Donc le vin de marché, c'est systématique. Hein. C'est-à-dire quand deux marchands font affaire ensemble, ils vont systématiquement boire un coup ensemble.
Ça c'est, ah, c'est marrant.
C'est ça impossible.
Scelle le deal. Allez, ensemble. Voilà.
Donc là encore, ça a une dimension anthropologique. L'idée de partager le vin, c'est vraiment un signe d'amitié ou même de fraternité, donc de solidité de l'échange qui vient d'être fait. Et d'ailleurs, alors parfois il y en a qui rusent. Hein. Ils boivent le coup ensemble. Et après, ils sont pas sûrs en fait du marché et ils refusent de payer. Donc en fait, c'est une espèce d'accord tacite. Soit les gens se partagent la bouteille, soit il y en a un qui dit c'est moi qui vais payer. Mais en général, s'il y en a un qui dit c'est moi qui vais payer, puis qu'au moment de payer dit vous ne devez pas payer la bouteille, c'est une manière de d'essayer de casser le marché de manière symbolique. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire pour montrer sa désapprobation. Vous avez aussi alors quelqu'un qui accepte de payer mais qui va jeter la pièce sur la table, c'est aussi une manière de dire ton marché il vaut rien. Donc en fait, parce que quand quelqu'un fait ça, l'autre refuse de ramasser la pièce. C'est trop humiliant. Donc en fait, quelqu'un qui jette une pièce, c'est très bien que son interlocuteur en face ne va pas la ramasser. Donc que fait le cabaretier ? Bah, il ramasse la pièce, il la garde, il n'encaisse pas, et il attend que ça passe au tribunal parce que ça finit toujours comme ça. Donc il y a toute une symbolique de la pièce. On a ça dans un film qui a tué Liberty Valance. On a cette scène-là. Je ne sais pas si vous connaissez ce film-là. C'est avec John Wayne. Et donc vous avez plusieurs Liberty Valance, c'est vraiment le méchant du coin. Et à un moment, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait tomber une escalope, un plat de viande qui arrive sur une table. Et donc les gens commencent à crier et disent ouais, tu nous laisses tranquille. Et puis il dit ouais, si c'est que ça, il leur balance une pièce en disant lave-la votre bœuf quoi, votre tranche de bœuf. Et en fait les gens refusent de la ramasser en disant tu nous traites pas comme ça, etc., etc. Donc c'est intéressant parce que quand j'ai vu cette scène là encore sur le tard, je me suis dit mais c'est les paysans du Maine, ils font comme ça quoi.
Et ça vous l'avez trouvé du coup dans des écrits?
Oui, c'est dans des procès, des auditions de témoins qui décrivent ce genre de scène. Donc selon la manière dont l'argent est donné, il n'a pas la même valeur. Alors là, d'un point de vue sociologique et ethnologique, c'est assez extraordinaire. Ça remet en cause la fameuse expression « l'argent n'a pas d'odeur ». Si, l'argent a une odeur. Et la manière de donner l'argent va faire qu'on accepte ou pas le paiement. Voilà. Donc ça peut aller jusque-là.
C'est
ça arrive pas souvent. Hein,
ouais, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, peu importe, une bagarre ou pas, pièce, tout le monde se jette dessus. Ouais.
Et au niveau de la marchandise, parce que depuis le début de l'émission, on parle beaucoup de bétail, mais est-ce que c'était uniquement du bétail ou on pouvait trouver autre chose, genre, je sais pas, de l'artisanat ou des surplus de récolte, par exemple?
Oui. Donc j'ai juste parlé du commerce des animaux parce que c'est ça qui est le plus important. Mais autrement, il y a un peu de tout. Il y a le cuir par exemple, des tanneurs, donc ça touche encore aux bestiaux, mais ça circule énormément le cuir parce qu'on en tue pas mal dans la région quand même. Donc vous avez le chanvre, un énorme commerce parce que quasiment tous les paysans du Maine qui ont une exploitation, ils font du chanvre. Donc ils ont des petites superficies, mais sur l'ensemble, ça fait des tonnes de chanvre chaque année qui sont alors soit vendues en chanvre brut, soit filées, mais bon, ça circule. Puis le blé, évidemment, pour ravitailler la ville du Mans, on a une zone de 15-20 kilomètres où des marchands de blé ou des boulangers, en général, c'est les boulangers qui vont acheter directement sur les marchés ou plutôt même les meuniers aussi qui achètent tout dans le coin et qui vont revendre en ville. Voilà, donc on a plein d'intervenants là-dessus. Et sinon, il y a des marchands de vin aussi, parce qu'il y a un petit peu de vin dans la région. Hein. Autour du Mans, il y avait entre 2 et 3 000 hectares hein, entre l'ouest du Mans et Champagné. Donc, il y a du vin qui circule, qui vient aussi de la vallée du Loir, qui vient de Touraine, qui vient d'Anjou, donc ça circule. Un peu de cidre aussi, mais beaucoup moins quand même. Et puis, on va trouver des toiles. Donc là, c'est les tisserands. Il y en a énormément. Là, c'est un grand commerce aussi, hein, parce que les toiles, elles sont vendues à Paris, elles sont vendues en Normandie, puis elles sont exportées aussi à Nantes, où elles sont après revendues dans les Antilles. Ça sert à faire des sacs d'emballage pour tout un tas de choses, des chemises pour les esclaves, des voiles pour les bateaux aussi, hein. Voilà, donc le chanvre a un débouché vraiment très très important. Puis on tisse les deux dans le Maine, des toiles de chanvre et des draps de laine aussi. Donc à Saint-Calais, il y a les deux, à Mamers, il y a les deux, à Bonnétable, on fait les deux, au Mans, on fait les deux, voilà.
Et vous parliez tout à l'heure des... Alors, je reviens juste un petit peu en arrière, mais sur les... Ça finissait souvent au tribunal. Pourquoi, généralement ça... Enfin, qu'est-ce qui s'y passait? Pourquoi? Quelles étaient les raisons principales?
Le refus de payer. Alors, souvent, non. Hein, c'est très rare, en fait, que ça termine au tribunal. Ah. Parce que dans le ressort du Mans, il va y avoir... Enfin, sur l'ensemble de la Sarthe, dans les années 1780, on doit arriver à 1500 affaires qui finissent au tribunal chaque année. Sur ces 1500 affaires, il y en a que deux ou trois ou quatre, ça dépend des années, des fois ça peut monter à 10, qui font l'objet d'une enquête.
Ah oui.
La plupart du temps, c'est des refus de paiement. Donc sur l'ensemble des transactions qui se font dans la région, c'est une infime partie en fait.
D'accord.
Qui arrive au tribunal, parce qu'en fait les mécanismes de mise en confiance des acteurs marchands les uns avec les autres et la surveillance mutuelle des marchands les uns envers les autres fait que il y a très peu d'affaires qui finissent au tribunal. C'est tellement ritualisé, on sait comment ça se passe, on évalue la marchandise, on va à l'auberge, on picole et après on fait le marché. C'est toujours ouais. comme ça, donc c'est très encadré et des gens qui seraient opportunistes ou ce qu'on appelle les passagers clandestins en économie, il y en a quasiment pas, ça arrive jamais. Donc les marchés, en fait, là où ça marche pas et où il y a des affaires, c'est essentiellement des paiements qui sont pas faits, ouais. qui sont en retard. Hein. C'est pas forcément que les gens sont des mauvais payeurs, hein, c'est qu'ils ont pas de chance. Donc ils arrivent pas à payer leurs fournisseurs et quand il y en a quelques-uns qui arrivent pas à payer, ça va ensuite basculer sur tout le système. C'est pas que les gens sont des mauvais gestionnaires ou quoi, hein, c'est que c'est un peu la faute à pas de chance. Ça va pas jusqu'à la faillite, hein. Il y a des faillites, c'est pareil, il y en a pas énormément. Ouais. Mais par contre, des retards de paiement, c'est tout le temps. Et je pense qu'il y en a qu'une petite partie qui arrive au tribunal aussi, parce que ce qu'on voit dans les archives, c'est des procédures d'accommodement. Il y a énormément de procédures d'accommodement avant d'arriver jusqu'au tribunal. Les gens aiment pas ça parce que déjà, ça coûte de l'argent. Oui. Et puis pour la réputation, c'est bon pour personne en fait. Un vendeur qui est avec un acheteur qui aurait la réputation d'aller souvent au tribunal, ça passe mal quoi. Donc en fait, il y a dans ces cas-là d'autres marchands qui essaient de rabibocher les gens. Alors des fois, il y a des affaires assez marrantes hein, parce que les gens vont d'abord, ce sont leurs amis qui vont se retrouver. Sur un marché, la semaine d'après, ça va être sur un autre marché à 20 km, les deux types qui se rencontrent enfin, et puis ils se revoient une troisième semaine sur un autre marché encore ailleurs, et là, ils vont essayer de se réconcilier. En général, il y a un notaire, il y a un huissier, et d'autres marchands importants qui sont là. Oui, ils boivent. Ils boivent toujours, ça.
Évidemment.
C'est obligatoire, c'est obligation. C'est
mais c'est pas qu'anecdotique, l'alcool, hein, parce qu'il y a à la fois la dimension symbolique, mais effectivement, dans la manière de faire des affaires, il faut être prêt à boire. Donc, je pense qu'il y en a qui doivent céder quand ils sont... Alors, il y a des affaires d'ivresse, mais alors, le problème d'ivresse, c'est que c'est une circonstance atténuante, en fait. Ça veut dire que quelqu'un qui arrive à prouver qu'il a fait un marché en état d'ébriété peut légalement annuler le marché devant le tribunal. Donc des fois, il y a des témoins qui sont favorables à un camp qui viennent dire il était bourré. Mmh. Et les gars de l'autre camp disent on l'a pas vu boire. Hein,
heureusement, il n'y avait pas d'effet au test à l'époque.
Donc là, on est coincé. Ouais. On se dit mais bon, là je vois pas comment le juge peut trancher sur ce genre de choses quand c'est vraiment à l'opposé. En général, celui qui va résoudre le truc, c'est le journalier qui était là sans faire exprès, ou la servante de l'auberge qu'on va interroger, qui était pas dans le coup. Et quand on lui dit mais machin, il était sous, était sous. Et donc elle a pas été mise au parfum peut-être que elle se prenait une grosse torgnole par les autres. Bon, ça, c'est possible qu'il y avait des règlements de compte derrière.
Et alors peut-être dernière ou parmi les dernières questions, mais est-ce qu'on sait de quand finalement date ce rituel de l'alcool? Parce que est-ce qu'on sait, il y a une date? Enfin, j'imagine que c'est compliqué, mais à déterminer. Mais à peu près, quand est-ce que c'est mis en place ce rituel? Parce que c'est difficile à répondre comme question.
Ouais, parce que moi, comme je travaille que sur le 18e siècle, pour des raisons de source, hein, si j'avais. Ouais. La justice consulaire du Mans, elle ouvre en 1711. Alors, je suis allé voir à Angers, quand même. À Angers, ça a ouvert dans les années 1560. mais des enquêtes, il n'y en a quasiment pas avant les années 1670. Donc à Angers, c'est la même chose. Hein. Ouais. Bon, donc je sais pas. Je pense qu'au Moyen Âge, on fait aussi des contrats comme ça. Enfin, il y a aucune raison.
Ouais. C'est quelque chose qui s'est installé. Ouais,
c'est symbolique. Ouais. Ouais,
c'est un fait anthropologique de très longue durée. Hein.
Ouais. Parce que des fois, il y a pas toujours d'explication. C'est vrai que ça se reproduit après comme ça et puis jusqu'à se mettre en place.
Ça devient une coutume.
Ouais, c'est ça. Est-ce que vous aviez peut-être d'autres questions, les gars, ou je peux lancer
On peut passer au portrait.
Ouais, bah alors, la musique d'abord.
La musique avant.
Puisque donc, donc, ils vendaient toutes sortes de choses. commerce, et ben, j'ai pensé à Bourvil, évidemment, les crayons. Voilà. Parce qu'ils vendaient, peut-être aussi des cartes postales ou des crayons, que sais-je. Mais voilà.
Simon a choisi les deux musiques. Ouais, les deux musiques de l'émission. Hein,
elles sont pas mal. Hein,
j'essaye de faire en rapport avec le thème. Voilà.
C'est ton choix.
Donc c'est Bourvil et c'est Les Crayons.
Elle n'avait pas de parents, puisque elle était orpheline. Comme elle n'avait pas d'argent, ce n'était pas une richissime. Elle eut cependant des parents, mais il ne l'avait pas reconnue, si bien que la pauvre enfant, on la surnomma l'inconnue. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons, car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Mais reconnaissant l'inconnue, il disait toujours non. C'est qui est triste. C'est triste quand même de ne pas reconnaître son enfant. Il faut pas être physionomiste. Il me semble que si j'avais un enfant, moi je le reconnaîtrais. À condition qu'il me ressemble, naturellement. C'était une Ménilmontant qu'elle étalait son petit panier pour attirer les clients. Elle remuait un peu son panier. Mais un jour, un vagabond qui passait auprès de son panier lui a pris tous ses crayons. Alors elle s'est mise à crier, voulez-vous des cartes postales? Je n'ai plus de crayons. Mais les gens, chose banale, ne voulaient plus que des crayons. Quand elle disait dans la rue qu'elle avait des crayons, il disait à l'inconnu, tes crayons sont pas bons, c'est ça qui est triste. C'est triste quand même. Elle avait plus de crayons. Forcément, elle se baladait avec son panier à découvert, n'est-ce pas? Alors, le vagabond, lui, bon, allez. Hop, il a pris tous ses crayons. Comme ça, elle en avait plus. C'est vrai qu'elle n'en avait pas besoin puisqu'elle n'en vendait jamais, mais quand même. Un marchand de crayons en gros lui dit, viens chez moi mon enfant, je t'en ferai voir des beaux, je ne te demanderai pas d'argent. Ce fut un drôle de marché, car c'était un drôle de marchand, et elle l'a senti passer, car elle en a eu un enfant. C'est triste quand même d'abuser d'une inconnue comme ça. C'est vrai qu'elle a été faible aussi. C'est pas parce qu'il disait qu'il était marchand de crayons en gros enfin, elle avait un enfant. Voilà. Elle avait bonne mine. Si seulement elle avait une mine de crayons. Mais non, mais c'est ça qui la minait. Alors, quand elle a vu ça, ben, elle a abandonné son enfant. Puis qu'est-ce qu'elle a fait plus tard, cet enfant? Ben, elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons. Car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non, c'est ce qui est triste.
Qui c'est qui est là?
La percée de l'histoire.
Tiens!
Mais c'est pas vrai!
Enfin, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi?
Tous les mardis, 20h-21h sur Radio Alpa.
Ah ouais?
Ouais.
En direct du studio pour une émission spéciale Portrait d'Histoire avec l'historien Benoît Musset.
Eh ben mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende.
Et vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com et vous écoutez toujours La Percée de l'Histoire pour son émission spéciale, vous l'avez compris, depuis maintenant près d'une heure, Portrait d'Histoire avec l'historien Benoît Musset. Et évidemment, comme c'est la fin de l'émission, eh ben, c'est le petit rituel, puisque le titre de l'émission, c'est aussi ça, Portrait d'Histoire. On va... Attends, vas-y, tu disais...
Portrait d'histoire et pas chinois. Mais...
Ah oui, parce que oui, bah, oui parce que c'est le même principe
blague,
en fait.
C'est la blague, ouais.
C'est ça, c'est que donc ça va être le portrait d'histoire.
Chouette.
Quelques petites questions toutes simples en rapport avec, par exemple, hein, bah, je vais les faire juste après. Je vais d'abord mettre le générique que j'ai créé spécialement pour l'occasion.
Mais non, mais attends.
Ah, bah, il prépare des surprises, non, mais... il prévient
attention,
personne.
Attention,
une virgule, un machin. Non, mais
attention,
non. On est bien sûr.
Générique.
Moi, en général, je réponds merde. En principe, ça colle avec tout.
Le portrait d'histoire.
Un petit mot ?
Merde.
Voilà. Et d'où venez-vous ?
Merde.
Très bien.
Voilà, alors évidemment, on attendra d'autres réponses que merde.
Mais bien vu le générique.
Mais, voilà. Mais donc, tout simplement, alors première question, si vous étiez un personnage historique, vous seriez qui ? C'est pas facile.
Bah, moi, parce que... Non, parce que qu'est-ce qu'un personnage historique ? Tout le monde est un personnage historique. Et historique, tout ce qui est passé. Donc, voilà, moi, pour moi, il n'y a pas de personnage qui est plus historique que ça. Ça se relie avec la micro-histoire, en fait. Je pense que c'est une approche globale qui est peut-être un peu anarchiste sur les bords, mais personne ne mérite d'être qualifié de plus historique que quelqu'un d'autre. Donc les têtes couronnées, pas plus que les paysans du Maine. L'important pour les historiens, c'est de comprendre qui sont les gens et pourquoi ils font ce qu'ils font. Voilà. Donc moi personnellement, les têtes couronnées, ça m'intéresse pas, mais pas plus.
Plutôt coupé.
Ça m'intéresse un peu, mais pas plus que les autres, quoi. Pas plus que nos dirigeants politiques. Voilà.
Donc, en tout cas, c'est intéressant comme réponse parce que
un choix qui est pas
c'est
habituel,
tout aussi. Ouais. Moi, je trouve ça très intéressant. Si vous deviez vivre à une période de l'histoire.
Le passé, c'était pas terrible quand même. Hein. Ouais. Mais l'avenir est pas radio, donc
ouais, choisir l'un ou l'autre.
J'ai du mal. Bon, non, bah, c'est pareil, je changerai rien parce que quand on s'imagine dans une période du passé, donc je changerai rien, c'est-à-dire je garde ma période de vie. Hein, et puis parce que quand on s'imagine
on
le passé.
Des périodes.
Quand on va voir les pauvres gens qui existent, qui vivent dans les années 1770-80, enfin c'est la misère, quoi. Donc la seule chose qu'on puisse espérer, c'est de pas vivre dans la misère à n'importe quelle époque. Voilà, donc c'est un souhait pour l'avenir que personne ne vive dans la misère. Je crois que c'est notre seul objectif.
Si vous étiez un monument historique,
ah là je vais. Je vais répondre à la Léo Dagan, là. Je ne sais pas. Non, là, franchement, il n'y a rien qui me vient.
Ok. Si vous étiez un costume historique, alors ça, c'est bon. Ça dépend. Si vous deviez porter aujourd'hui un costume qui a traversé les époques.
Une robe de moine.
C'est un choix.
C'est un choix.
Pourquoi pas.
Ouais, sympa.
Si vous étiez une invention ou un objet historique.
Le vélo.
Le vélo,
ouais, pas mal.
Pourquoi cette réponse?
Parce que je fais beaucoup de vélo.
Ok.
Le vélo, c'est super.
Je suis anti-voiture. Donc.
Et alors, bon, là, c'est pas vraiment historique, mais si vous aviez un pouvoir.
Bah, c'est vrai que remonter le temps, ça serait sympa quand même.
Ah, ça, c'est
pour vérifier des choses.
Ouais.
C'est la
en
deuxième
tant qu'historien,
fois.
Mais je pense que tous les historiens vont répondre ça. Ce serait juste pour.
Retourner dans le passé, regarder.
Voilà,
ah, c'est bon.
Regardez. Même en général, ça serait génial.
Bah, ne rien faire, hein, attention.
Oui.
La contradiction spatio-temporelle.
Il ne faut pas toucher.
Ouais. Ah oui, bah alors là, les
j'ai vu Retour vers le futur.
Ouais.
88 balles, c'est l'heure.
Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Benoît Musset. C'était super intéressant, déjà, d'avoir remis un petit peu les représentations qu'on aurait pu avoir au clair sur cette époque. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie.
Merci également, Salouane. Merci, Thomas.
Merci à toi.
Pour votre présence habituelle, évidemment. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une quatrième émission pour Portrait d'Histoire, en compagnie cette fois-ci de Jean-Pierre Guyard, qui est le président de la Vimancelle et Sartoise. Rendez-vous donc la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et en attendant, portez-vous bien et encore et passez une excellente soirée.
À la semaine prochaine.
Au revoir.
C'est une révolte.
Non, sire. C'est une révolution.
Je vous ai compris.
I have a dream.
Vive la nation !
Vive la nation !
Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
That's one small step for man.
Ich bin ein Berliner.
Groupir! Il faut reste groupir! Qu'est-ce qu'il dit?
Il dit groupir!
But alors, you are French?
Et toc, remonte ton slibard, Lothar!
Monsieur! Un sarrasin!
Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. Bonne nuit. Dormez bien. Rassemblez vos forces pour l'aube. Car l'aube viendra.
La percée de l'histoire.
La percée de l'histoire.